Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, ce qui a attiré notre attention. Cette semaine, c'est toute la bataille. On en a déjà un petit peu parlé, psychologique avant France-Afrique du Sud. On sait que le manager des box, Rassie Erasmus, était entré dans la tête du staff des Bleus avant le quart de finale de Coupe du Monde il y a 2 ans. Cette semaine, il a donc récidivé. Moi, ce qui m'a le plus fait marrer quand même, c'est quand il a publié 1 heure avant la composition de Fabien Galthié sur les réseaux. Non, mais vous imaginez ça, un truc comme ça dans le foot? On hallucinerait. Après, bon, on savait tous qu'elle allait être la compo du 15 de France. Il y a moins de suspense, évidemment.
Ouais, mais il a fait.
Mais il l'a fait. Il l'a fait pour, dire toc toc, je suis là, je sais ce que vous allez faire. L'air de dire, effectivement.
Mais oui, parce que Galthié avait dit, il y a de l'espionnage, il faut lutter
exactement
contre l'espionnage.
Exactement.
Bah, tu vois, ton espionnage, regarde, moi, je te donne la compo avant toi.
Exactement. L'air de dire, vous avez voulu cacher des choses à l'entraînement cette semaine, je sais tout. Les GG, aujourd'hui, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de ça. L'adversaire qui te rentre dans la tête. L'adversaire qui parfois te fait peur. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment vous l'avez géré? Cédric, tiens, puisqu'on parle de rugby. L'adversaire qui te rentre dans la tête ou le joueur qui te rentre dans la tête?
Non, alors déjà, peur, non. Mais en tous les cas, dans ma période, il y avait 2 joueurs, c'était Aurélien Rougerie et Christophe Dominici. Tu savais que tu étais obligé de préparer ça de manière différente.
Ils jouaient au même poste que toi,
ouais, dans en concurrence. Et en plus des concurrences pour l'équipe de France, ouais. Adversaire direct, 2 joueurs au profil différent. Alors, me rentrer dans la tête, non, mais tu savais que tu étais obligé de t'arrêter sur eux. Donc, c'est ça, la vidéo marchait plutôt bien sur les capacités de l'un ou de l'autre à me faire déjouer. Voilà. Alors, est-ce que c'est rentré dans la tête? Je sais pas. Mais en tous les cas, il y avait une approche un peu plus psychologique quand tu jouais face à eux.
Mais c'est-à-dire, quoi, tu te disais avant, donc on le disait, c'était les adversaires pour le 15 de France, c'est quoi, tu peux pas te louper aussi?
Ouais, et puis alors si je prends plus Aurélien Rougerie, il m'a fait vivre. Je suis passé pour un drapeau sur une action à Marseille où en demi-finale il me fait un énorme crochet. Je l'attends sur l'extérieur. Je dis il va pas oser me prendre l'extérieur et puis il me prend l'intérieur. Je m'enroule complètement. Donc je balance le bras et puis la puissance et la vitesse d'Aurélien, je m'enroule dessus. Donc après on l'a remis en boucle et je suis pas. J'étais pas à mon avantage.
Ah, mais c'est intéressant, ça t'est resté dans la tête, ça? Le fait que t'avais enroulé.
Alors, moi, j'avais une tendance à essayer.
T'as défendu différemment?
Non, j'ai essayé de l'oublier, mais un an après, ou peut-être 2 ans après, on va jouer à Clermont, et Guy Noves, lui, m'est rentré dans la tête, par contre. Il m'a dit, tu vas refaire le drapeau encore sur Aurélien Rougerie, tu vas. je sais que bon, on est tous d'accord, c'est lui qui est en équipe de France, toi, t'attends de savoir s'il est bon ou pas, tu vois. Ce genre de choses qui m'a émotivé, d'ailleurs, ce qui m'a évalué, de dire, oh, je lui avais répondu, hein. Je lui ai dit, si aujourd'hui je fais un truc et que Aurélien Rougerie marque pas, le bus m'appartient en retour. Pour rentrer, donc je rappelle Clermont-Toulouse, on passe par Brive, je suis de Brive, je lui ai dit, donc j'arrête le bus à Brive et la soirée, elle est pour moi. Et il m'a dit, ok. Et donc, ce match-là, j'ai la chance de marquer un bel essai et à 10 minutes de la fin, j'ai Aurélien Rougerie qui déboule en 1 contre 1. Et je me dis, il va me refaire l'intérieur, il va me faire l'extérieur, mais ça va vite. Et je sais pas, j'arrive à plonger du bon côté, j'arrive à le prendre, et là, je m'accroche, j'ai les doigts coincés dans sa chaussette, et je me dis, surtout, ne lâche pas. Il arrive à faire la passe, ça marque, je me relève, je regarde le banc, je fais Guy, le bus est à moi. Rien à foutre du match gagné, perdu.
Énorme.
Et donc, on s'est réellement arrêté à Brive, on est arrivé à 00h30 à Brive, il a posé le bus devant une boîte de nuit, briviste, et on est reparti à 4h ou 5h du matin.
C'est rapidissime.
Donc, c'est pas eux qui m'entraînent, c'est plus Guy, mais voilà. En tous les cas, ce que je veux dire sur des actions ou des numéro 10. Au Gara, quand il était joueur, il avait une façon de poser son ballon quand il jouait au pied ou quand il attaquait à la main. C'est des gens que tu t'arrêtes, mais pas rentrer dans la tête à faire un focus sur un joueur.
Alizé, l'adversaire excellent qui te rentre dans la tête, ça t'est arrivé, toi?
Oui, mais alors nous, dans le tennis, il y a 2 cas de figure. Il y a des joueurs qui rentrent dans la tête consciemment et en faisant exprès. Et puis d'autres qui le font pas exprès. Et c'est surtout par rapport à la gestion des blessures et de l'adversaire diminué. Parce que nous, on n'a pas un sport de contact, on a un sport où on voit l'adversaire de l'autre côté qui nous envoie des signaux plus ou moins importants. Et quand on sent qu'un adversaire est diminué, on se donne plus du tout le droit à l'erreur. Et c'est là où en fait, ça commence à nous rentrer dans la tête, puisqu'un joueur qui commence à boiter, qui commence à montrer des signes de faiblesse, qui un jour j'ai quand même 11 jabbeurs qui a vomi dans le coin du court et elle a réussi à me battre juste derrière. Derrière j'étais tétanisée, je me dis mais la fille elle a une gastro, elle est en train de vomir Et elle ne joue pas extrême. Swan Jabeur, c'est une fille des plus fair play du circuit. Et... Sauf que c'est arrivé deux fois. Une fois, elle s'est tordue la cheville contre moi, elle m'a battue. Strap, arrêt de 15 minutes sur, je me souviens, c'était à Eastbourne, sur Wimbledon. Elle se fait une entorse, elle tombe, elle crie, elle se... le match s'arrête. Je me dis, bon, elle va forcément abandonner. Elle reprend le match et elle me bat. Et elle me fait la même chose 6 mois plus tard à Charleston sur terre battue où elle vomit dans le coin du cours et elle me bat.
Mais en fait, elle te rentre dans la tête parce que tu te dis c'est humiliant si je perds.
Un peu. En fait, je me donne plus
donc
du tout le droit à l'erreur.
Donc elle faisait exprès de vomir.
Non, c'est ce que je dis. Ça, c'était inconscient au final. C'est des choses qui arrivent. Parfois, on est diminué, mais en fait, c'est nous, notre rapport à ce qui se passe de l'autre côté qui change. Ça veut dire que là, on se dit, tiens, la fille, elle est quand même au plus mal. Comment je peux perdre ce match? Je suis vraiment une merde. Désolée pour le terme, mais alors, et puis, alors, à l'inverse, il y a des joueurs qui en jouent. Ceux qui, alors, on va pas nommer, je sais que tu l'adores, Novak au début de sa carrière, il aimait bien jouer sur ce paramètre-là.
C'est ce que j'adorais chez lui.
Voilà, ça m'étonne pas.
Et il continue un peu.
Et il faisait des arrêts, il appelait les kinés, il faisait semblant qu'il était au bout de sa vie.
Ah, il continue, alors,
peut-être
il a continué
pas semblant,
à le faire,
il a continué à le faire longtemps.
Très longtemps, ouais.
Ça, par contre, c'est un truc qui est stratégique. J'ai un peu plus de mal avec ça. Je trouve que c'est anti-sportif pour moi.
Ça fait jouer, partie jouer du avec jeu, les règles, oui. Donc c'est pas anti-sportif. Mais,
ah, ok. Pour moi,
si c'est des règles.
Ça, c'est pas des valeurs que je partage. Mais en tout cas, c'est effectivement très efficace parce que couper le rythme, eh ben, ça donne le temps à l'adversaire de cogiter. S'il est sur le point de gagner, c'est le meilleur moyen pour lui faire perdre ses moyens, justement. Il y a vraiment des stratégiquement, il y a des choses à faire pour essayer de faire douter son adversaire, de lui rentrer dans la tête. Et dans le tennis, comme c'est pas un sport de contact, il y a plein de choses à utiliser.
Mais Alizé, finalement, le principal adversaire d'un joueur,
c'est soi-même.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
C'est toi qui rentres dans ta tête.
Dans un sport individuel, oui.
Dans un sport. Je pense que le tennis doit être le sport le plus psychologique qui soit. Quoi. Tu peux être un très bon joueur, mais si t'as pas le mental ou si tu.
Parce qu'on a vraiment une merde. On a beaucoup de temps pour se raconter beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a le moment où on joue le point. Là, le cerveau est plus ou moins en veille. Mais alors, par contre.
Quand tu tapes ta balle avant de servir, quand tu vas récupérer.
Il y a toutes ces 25 secondes entre chaque point qui sont des temps creux où tu peux te raconter tout ce que tu veux au final.
En plus, le golf, regarde le golf.
Mais le golf, il y a énormément de temps creux. C'est ça, un swing.
Et moi, je suis admiratif de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Je serai jamais golfeur professionnel, mais j'aurais aimé savoir la sensation entre tu tapes ton coup, tu diriges pour aller à ton autre coup. Qu'est-ce que tu fais?
Tu fais un reset sur ton coup.
Tu visualises.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais.
Tu visualises,
mais quand t'es dans un sport co, t'es souvent en action et t'as des potes qui peuvent rattraper. Mais au tennis comme au golf, tous ces sports.
C'est difficile d'enlever les pensées parasites.
Ouais, tout ça. Et puis quand tu t'en mets une en tête. Wow.
C'est là où les ancrages dans le moment présent, les sophros, les méditations dans les sports individuels, c'est hyper important parce qu'il faut réussir à mettre son cerveau justement en ralenti, en veille, se recentrer sur le moment présent.
Et au final,
tu as complètement raison. La personne qui te rentre le plus dans la tête au tennis, c'est toi-même.
Attends, mais Alice, toi, t'étais très expressive sur le terrain quand même. Sur tes sentiments et
oui,
tout ça.
Oui, mais ça m'empêchait pas d'avoir
des
pensées parasites. C'est
une petite voix.
Deux choses différentes. Non, parce que
c'est plusieurs petites voix.
Moi, j'étais expressive surtout parce que alors on parlait de la colère tout à l'heure et du moteur que ça représentait. Pour moi, la colère c'était un moteur dans mon jeu. Et du coup, parfois de l'exprimer, ça me permettait de me mettre un coup de pied aux fesses. Mais en fait, d'exprimer sa colère, ça n'empêche pas tout ce discours interne qui se passe et quand l'adversaire en face montre des signes de fatigue ou qu'il est diminué, en fait, ça amplifie tout ça parce que on se raconte des choses encore plus
Comme au poker, ils peuvent envoyer des faux messages. J'ai semblant d'avoir des crampes, j'ai un petit souci. Tu joues dans la règle parce que tu as droit.
Exactement.
Et là, après, tu fais déjouer ton adversaire.
Après, t'as les joueurs qui te rentrent dans la tête tactiquement. Ça veut dire qu'un joueur qui sait exactement ce que t'aimes pas, il va faire le schéma tactique qui fait que, par exemple, si t'aimes pas avoir une balle slicée courte sur le coup droit.
Ouais, est-ce qu'on appelle ça rentrer dans la tête? Parce que pour moi, c'est pas rentrer dans la tête, c'est juste jouer sur tes désavantages.
C'est rentrer dans la tête un peu quand même tactiquement. Ça veut dire c'est jouer le coup pour emmerder l'adversaire.
C'est comme par exemple France-Afrique du Sud, ils vont taper
exactement
ce que j'allais dire.
Est-ce que c'est pas ça?
Non, ça c'est pas rentrer dans la tête.
Parce qu'ils savent qu'on est plus faible
que t'es plus faible.
Donc c'est pas
rentrer dans la tête. Ça c'est pas rentrer dans la tête, c'est une adaptation tactique à un point faible.
Mais ils savent que les Français se savent.
Mais les Français le savent, donc ils sont pas dans ta tête.
Oui, mais ils ont joué là-dessus justement dans la petite vidéo sur les réseaux sociaux.
Mais bien sûr,
semaine, Plastic Bertrand et tout la musique, ça plane pour moi. Ils ont remontré ça pour rentrer dans la
ballons,
tête.
Fred,
est-ce que toi, il y a déjà un adversaire qui est rentré dans ta tête?
Moi, je comprends pas la question. qui te rentre dans la tête? Qui peut te rentrer dans
la tête? Il y a énormément de monde dans sa tête.
Non, mais
Fred, il n'y a plus de place.
Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a jamais personne sur qui.
Tu sais pourquoi? Parce que je me mets suffisamment la pression, j'ai pas besoin que quelqu'un me la mette en plus.
Non, mais c'est pas ce qu'on dit. On dit que est-ce que tu rentrer dans la tête, c'est aussi une préparation à part parce que tu sais que sous les panneaux, tu vas avoir un mec beaucoup plus costaud qu'un autre.
Jamais. Alors, il y a une adaptation parce que à chaque match, il y a une vidéo, il y a une préparation différente du match. Parce que à chaque match et à chaque tactique, c'est différent. Mais jamais, je me suis dit, ce mec-là fait ça, il me fait peur.
Mais non,
je m'en fous.
Tu joues un Cador.
Suffisamment la pression.
Non, mais tu joues un Cador sous les paniers. Tu sais qu'il prend plus de rebonds que toi. Tu sais qu'il est plus efficace.
Ben moi, je vais jouer à mon jeu. Je peux pas jouer autre. En fait, je vais pas adapter.
Toi, tu te concentres sur quoi?
Ben je me concentre sur moi, évidemment.
Mais toi, tu te concentres aussi pour faire déjouer les autres. Toi, t'étais plutôt le tortionnaire.
Moi, il y a deux choses. Déjà, je viens d'un sport où le trash talk, c'est une habitude, une coutume, donc ça trash talk énormément. Donc ça, tu te parles un petit peu, tu dis un truc. Et aussi, je me suis rendu compte que si tu contres le mec en face de toi à la première action, il va plus shooter de la même manière après. Fred. Donc tu rentres dans sa tête en mettant un contre directement.
Donc, tu te préparais bien à dire, ma première action, faut qu'elle soit concluante.
Oui, mais pas contre un mec particulier, contre n'importe qui, en fait. Contre n'importe qui, ma première action, je veux que ça soit un contre.
Toi, tu voulais impacter d'entrée de jeu pour rentrer dans la tête des adversaires.
Mais encore une fois, tu peux pas rentrer dans la tête parce que je me rends déjà suffisamment dans la tête moi-même. En fait, personne peut
comme
mettre plus la pression que je me mets moi-même. Donc,
non, mais c'est pas une forme de pression, je parle, c'est une... C'est pas la pression que tu mets forcément que nous, c'est ce que toi tu imposes aux autres.
Mais moi je me concentre sur moi, donc je peux pas avoir de doute. Je peux avoir du doute par rapport au fait que est-ce que je vais être bon, est-ce que je vais pas être bon, mais contre n'importe quel adversaire, ni plus ni moins par rapport à un autre. En fait.
Est-ce que l'épisode qu'on ressasse régulièrement dans ta carrière, c'est ce dunk de Carter en finale olympique, est-ce que ça c'est resté dans ta tête et est-ce que ça t'a gêné pour la suite parce que tu as été un peu moqué quelque part par la presse ou par les réseaux sociaux à l'époque.
Réellement, c'est resté.
C'est resté
en moi parce que oui évidemment j'ai eu plein de soucis, mais dès que tu rentres sur le terrain pour moi c'est fini.
Ouais.
Pour moi il se passe plus rien et en plus je suis pas
mais
tombé.
Ça c'est ce que tu crois.
Je suis tombé sur le mec qui saute peut-être le plus haut de l'histoire de la NBA. Donc je me dis chaque fois que je vais affronter un adversaire il aura pas ses qualités physiques.
Fred, il fait ça en match de poule, tu retrouves en finale.
Je retrouve en finale et il se passe rien.
Non mais tu retrouves en finale, t'as une appréhension quand tu retrouves en finale.
Pas du tout. Mais pas du tout.
Fred, mais t'es obligé de penser, c'est pas possible.
Mais non, mais pourquoi veux-tu penser au négatif?
Chacun est différent, hein.
Pour moi, j'enlève ce qui s'est passé avant et j'essaie d'avancer, j'essaie de me concentrer sur moi. Mais encore une fois, ça veut pas dire que je me considérais comme le meilleur. Mais par contre, j'avais ce truc de dire, je suis celui qui doit être concentré, je suis celui sur qui je dois me retourner et je dois pas me concentrer sur l'autre.
Ce que je veux t'expliquer, c'est que quand t'es dans l'action, pendant le match, que tu y penses pas, je suis d'accord, parce que dans un sport t'es tout le temps en action, tu cours, mais en amont.
Jamais.
En amont, ta préparation. Moi, c'est là où pendant le match, non, t'y penses pas, parce que t'es dans l'action, tu réfléchis, même si on a des petits temps on-off, et tu fais un petit reset, là, je suis bien, comment ils font, peu importe. Mais c'est dans la préparation. Les jours qui sont avant la rencontre, t'es bien obligé, déjà, tout le monde te le rappelle, les images sont là pour te le rappeler, les journalistes sont là pour te le rappeler. Forcément, t'as un petit pourcentage où ils t'ont rentré dans le cerveau.
Vraiment, absolument jamais. Sans moi, mon match.
Je pense qu'il n'y a pas tous les gens qui ont cette capacité.
Je commençais à penser à mon match quand on faisait l'échauffement.
J'ai une petite anecdote qui me revient, c'est que moi j'avais une bête noire à l'époque qui s'appelait Francesca Schiavone. C'était il y a longtemps, c'est pour ça que ça m'était sorti de la tête. Donc vainqueur de Roland Garros, finaliste de Roland Garros, top 5 mondial, une italienne.
Bête noire de beaucoup alors.
Oui, probablement. Mais à chaque fois qu'on se jouait, on jouait 4 heures. C'était vraiment, mais c'était des combats à n'en plus finir. C'était une des plus grandes guerrières. Et en fait, j'avais quand même beaucoup de mal à la battre. Et à chaque fois, c'était un combat physique qui était tellement douloureux qu'à un moment donné, ça m'était rentré dans la tête. Je me souviens un jour, le tableau sort dans un tournoi en Chine. Je vois son nom au premier tour. J'ai tellement somatisé ce match. En fait, je l'ai su trois jours avant. Presque. Je l'ai su trois jours avant. Et en fait, elle m'était rentrée dans la tête de par son intensité physique, de par le combat qui m'attendait. Je le savais.
C'est rentré dans la tête ou c'est le contexte qui est rentré dans la tête?
Ou c'est peut-être les projections que je m'en faisais. Tout à fait. Néanmoins, je suis rentrée sur le court. Au bout de 4 jeux, je me suis fait un lumbago.
tu penses à jouer parce que
ça avait été forcément que ça jouait. J'ai tellement stressé de la jouer pendant 2 jours qu'au bout de. Je me suis. On avait fait 4 jeux en 40 minutes, le classique entre nous. Et sur un coup droit, je me suis sortie du cours et j'ai pris l'avion, je suis rentrée à la maison.
Elle a dû surprise parce qu'elle aussi, tu lui donnais du fil à retordre.
Et c'est ça où je regrette un petit peu de ne pas m'être mis dans ses chaussures à elle en me disant, mais si moi je ne suis pas contente de la jouer, forcément c'est réciproque. Et en fait,
moi j'aime l'image. On a le bilan, ce qui a voté Cornet, c'est 11-1 pour l'Italie.
C'est vrai.
J'aime l'idée de se dire, je me mets dans ses chaussures parce que dans la préparation, ça m'est arrivé aussi de dire, mais est-ce que les gens aiment te jouer?
Eh ouais.
Ah, c'est intéressant ça.
Et moi, tu vois, personne n'aimait me jouer en plus.
Quels sont tes points forts et les gens, est-ce qu'ils aiment réellement te jouer, tu vois? Et bien là, tu vois, t'as ton petit ego, ta confiance qui remonte parce que si elle fait des matchs en 4 heures, c'est que toi aussi, t'es sur le court. Est-ce qu'elle aime les matchs en 4 heures? Et ce point d'amélioration devient un point fort, ainsi de suite. Ça, dans cette partie psychologique, tu vois, ça, c'était intéressant.
Est-ce que tu es rentré dans la tête de certaines joueuses que tu as affrontées? Est-ce qu'il y en a certaines que.
Personne n'aime même jouer.
Comment tu sais ça?
On m'appelait l'ulcère du circuit.
Moi, j'aurais aimé savoir, tu vois.
Comment tu le sais, Alizé?
Je le sais parce qu'en fait, au fur et à mesure de ma carrière, je l'ai compris, on me l'a dit, mais j'ai pas c'est jouer là-dessus, tu vois. Moi, j'étais très focalisée sur moi, ce que je ressentais par rapport à mes adversaires, sur mes peurs, mes projections. Mais au final, j'oubliais souvent qu'une fille, quand elle voyait mon nom sur un tableau, elle savait qu'elle allait devoir jouer 3 heures pour me battre, que j'allais ramener 1 milliard de balles, que j'allais courir sur tous les points. Et en fait, personne n'est confortable dans ces situations. Et c'est vrai que Cédric a complètement raison. C'est bien de capitaliser aussi sur cette confiance-là, de se dire, mais en fait, elle est dégoûtée de me jouer.
C'est comme toi, Fred, en basket. Je pense que tu savais très bien que tu étais tellement dominant aussi.
Je manquais un peu de confiance en moi pour capitaliser là-dessus.
J'en avais suffisamment.
Bah, t'aurais pu m'en donner
un peu. Mais c'est vrai que moi, je savais.
Après, le basket, c'est un truc très spécifique aussi. Vous avez tous un gros ego. Il y a beaucoup de trash talk.
C'est vrai.
Mais c'est vrai aussi dans la personnalité des
Tu as raison de préciser. C'est vrai qu'au basket, on a de gros ego. On a cette capacité à se trash talker. Donc, on
est surtout les joueurs à l'intérieur.
On est habitué à donner des coups. Et moi, je savais surtout quand les mecs jouaient contre moi, ils se disaient, il est chiant, il est lourd, il va essayer de me donner des coups tout le temps et il va essayer de me contrer à chaque fois. Donc, forcément, le mec en face, c'était pas super.
Attends, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est Anthony qui a dit dans une interview ce matin, il a dit ce que j'aime bien dans les combats parfois, notamment contre les box, c'est quand le mec qui reçoit le plaquage, celui qui est au sol regarde son partenaire. Non mais une espèce de
tout à l'heure
on va en parler mais
tu sais ce que j'aimais le plus?
Est-ce que tu regardais ça, ta victime?
Évidemment, et justement par rapport à ça, ce que j'aimais le plus, et je vais comparer un tout petit peu au rugby, alors bien que les impacts soient pas les mêmes, c'est quand le petit meneur me rentrait dedans et que je ne bougeais pas et qu'il est tombé au sol dans la foulée, il y ne revenait pas une deuxième fois, il me regardait derrière de dire qu'est-ce qu'il est costaud celui-là.
On va parler de cadrage débordement, tu regardais ta victime derrière?
Non, j'avais trop de respect.
Il est trop vite.
Mais
on se retournait.
Mais je savais qu'il savait. Voilà.
Et on peut avoir un autre exemple assez parlant hein, dans le tennis, c'est quand même quand Rafa, avant de rentrer sur le court central de Roland-Garros et même sur les autres courts, il fait ses bonds là, de kangourou là, et qu'il saute à 2 mètres et que l'adversaire il est à côté, il se sent tout petit, il se dit non mais celui-là il est à fond.
On se rappelle,
mais déjà le mec
Rude
a perdu le match dans sa tête en fait avant de rentrer sur le central.
Et toi quand tu marquais un point important, tu regardais ton adversaire?
Jamais.
Moi j'ai toujours eu peur de l'après.
Je
tu vois, de dire, attention, tu fais le beau, va falloir assumer. Donc, restons.
J'avais peur de ça, moi, je
cool.
pense.
Ouais, restons ouais, ouais.
Alors, moi,
ouais.
J'adorais ça. Et au contraire, nous, on a un truc, avec le doigt, on dit non quand quelqu'un va essayer de marquer sur toi. Et moi, je le faisais tout le temps. tout le temps. Bon, parfois, après, t'as le retour de bâton, évidemment. Mais quand tu le fais, quand ton adversaire te regarde, se dit, eh merde. Et là, ça c'est cool. Vraiment, c'est cool.
Allez, on referme la porte du vestiaire. C'était fascinant. J'ose plus vous regarder dans les yeux, du coup.
Attention.
Ouais, baisse les yeux d'ailleurs.